Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi en ce jeudi 22 octobre. La carte de France va encore changer de couleur cet après-midi. Le Premier ministre Jean Castex doit annoncer de nouvelles restrictions pour lutter contre le coronavirus. Certaines villes, parfois certains départements entiers, sont quasi certains de passer en alerte maximale avec, là aussi, un couvre-feu. À Strasbourg, la place Kléber sera bien vide en décembre. Le marché de Noël est annulé, c'est sûr, en raison de la crise sanitaire. Dans ce journal, nous parlerons aussi de la mise en examen de 7 personnes après l'assassinat de Samuel Paty vendredi dernier. 2 mineurs, 2 collégiens sont poursuivis pour complicité. Nous serons avec l'avocat de l'un d'entre eux dans le journal. Au chapitre conso, soyez prudents avec vos cartes de crédit. Les banques remboursent de moins en moins leurs clients en cas de fraude. Et puis nous parlerons aussi des sportifs qui ne vivent pas forcément de leur passion. La situation économique actuelle n'est pas toujours favorable pour préparer correctement les prochains Jeux Olympiques. Portrait d'un athlète dans quelques instants. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès.
De la pluie sur les trois quarts du pays.
Et oui, du sud-ouest au nord-est, c'est bien chargé avec des pluies régulières cet après-midi. Du massif central au nord-est, vers les Alpes également, sur le relief des Pyrénées et des pluies plus actives sur le relief des Cévennes. À l'écart de ces pluies, dans la partie sud, le midi toulousain où ça restera sec, la côte d'Azur et l'ouest de la Corse. Mais attention aux vents sensibles dans le sud. Et puis à l'arrière de cette zone perturbée, on a de l'instabilité orageuse entre deux éclaircies. Ça va de l'Aquitaine à la région parisienne jusqu'aux Ardennes. Et c'est plus calme et plus lumineux près de la Manche, tout ça sous des températures encore très douces, comprises entre 17 et 23 degrés.
La question du jour, avec l'union civile pour les couples homosexuels, pensez-vous que François est un pape moderne? Vous dites oui à 40%, non à 36%. On attend vos appels évidemment au 3210. Bonjour Pascal Praud.
C'est au-delà de la modernité, c'est une révolution, c'est un pape révolutionnaire. Ce qu'il a dit, effectivement, vous pourrez en parler tout à l'heure, il dit les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Donc vous pourrez donner votre avis sur ce sujet. On pourra rendre hommage évidemment à Samuel Paty et poursuivre la discussion que nous avons sur ce climat qui règne en France aujourd'hui. Deux collégiens de 14 et 15 ans ont été mis en examen. Vous pourrez donner votre avis également sur ce sujet. Et puis Jean Castex qui remonte en première ligne pour annoncer tout à l'heure le basculement de plusieurs départements en alerte maximale. Et puis enfin, c'est l'anniversaire de Catherine Deneuve, Mademoiselle Deneuve. On ne dit pas l'âge des jeunes femmes, mais si vous voulez lui rendre hommage et parler pourquoi pas de Peau d'Âne et des Demoiselles de Rochefort ou du dernier métro, nous vous écoutons, nous vous attendons.
Merci beaucoup Pascal, à tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Jean Castex prendra donc la parole cet après-midi à 17h. Une chose est sûre, le Premier ministre va annoncer un nouveau tour de vis concernant les mesures pour contrer l'épidémie de coronavirus. Les indicateurs ne sont pas bons et désormais c'est pratiquement toute la France qui est concernée par cette deuxième vague. Odile Pouget, bonjour à vous.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
De nombreux départements vont basculer en alerte maximale avec des couvre-feux à la clé.
Oui, ce qui signifie qu'une majorité de Français, autour de 60% vont être concernés par ce basculement, selon les informations recueillies ce matin par RTL. 60% des Français, cela représente quand même 40 millions de personnes. C'est deux fois plus que la population vivant dans les 9 métropoles sous couvre-feu depuis le week-end dernier.
Alors, si on prend la carte de France, Odile, où se trouvent les zones les plus touchées?
Alors, situation particulièrement critique dans le Nord, en Île-de-France, dans l'Est, en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour cette région, tous les départements devraient passer en alerte maximale. Plusieurs villes par ailleurs sont sous très haute surveillance. Tours, Dijon, Orléans, Nantes, Strasbourg. Strasbourg où le taux d'incidence double chaque semaine. En fait, il n'y a guère que la Bretagne et l'Aquitaine qui échappent pour l'instant à cette circulation très très active du virus.
Pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir si le couvre-feu produit les effets escomptés.
Non,
on sait ça.
Ouais, ça fait seulement 6 jours qu'il est en place. Il faut encore au moins 10 jours supplémentaires pour en mesurer l'impact. Rappelons que lors de la première vague, il avait fallu presque 3 semaines avant d'observer la première très légère diminution. Et là, c'était après un confinement généralisé. Alors, va-t-il y avoir des annonces ce soir concernant l'avancement du couvre-feu, par exemple à 19h au lieu de 21h dans certaines villes, pour renforcer son efficacité? aucune certitude pour l'instant.
En tout cas, une chose est sûre, les Français semblent bien accepter le couvre-feu, semblent le respecter. Écoutez Gérald Darmanin.
Au total, 4777 verbalisations ont été dressées depuis au titre des règles du couvre-feu. Nous pouvons considérer, tous les remontées des forces de l'ordre, des préfets, démontrent que les Français acceptent cette mesure et il existe extrêmement peu d'incidents sur le territoire national du fait du contrôle de ces règles. Non, mais Madame la députée avait posé la question du couvre-feu et de l'heure. Je crois que le Premier ministre va répondre à votre question en fin de journée.
Voilà, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été entendu à l'Assemblée nationale ce matin, propos recueillis par Vincent Derosier. Alors, certains pays décident de reconfiner Odile. C'est le cas de l'Irlande. En France, pour l'instant, tout est fait pour éviter ce scénario.
Oui, pas de reconfinement généralisé dans l'immédiat aux conséquences socio-économiques catastrophiques. C'est pour ne pas en arriver là que ces nouvelles restrictions vont être annoncées ce soir. Éviter en tout cas à tout prix de connaître, comme au printemps dernier, un nouveau pic avec 7000 patients en réanimation et des centaines de morts par jour.
Merci beaucoup Odile Pouget du service qualité de la vie de RTL. Dans certaines villes, des records sont battus. Roubaix est en tête de liste actuellement. Cette ville du Nord enregistre, écoutez bien, 1135 cas positifs pour 100 000 habitants. Arrive-t-on à savoir pourquoi, Antoine Decarne ?
Alors, les facteurs sont multiples. Le contexte roubaisien, c'est celui d'une ville très dense et très jeune, où les mesures barrières ne sont pas toujours respectées, explique le docteur Timothée Chantier du Centre médical de l'Alma.
Il y a plus de relâchement chez les jeunes qui se voient davantage sans forcément respecter les mesures barrières. Ça peut effectivement être un début d'explication.
À Roubaix, nous sommes passés de 2 décès en septembre à déjà 33 au mois d'octobre. Une terrible nouvelle dans la ville la plus pauvre de France. Une pauvreté qui est un facteur de contamination pour le docteur.
La pauvreté joue sur la santé des patients, donc se prennent moins en charge parce qu'ils ont d'autres priorités. Avec des patients qui font moins bien attention, ça peut entraîner des cas graves. Hein.
L'autre explication, c'est la taille des logements. Ici, les habitations sont petites et les familles parfois nombreuses, ce qui favorise la propagation du virus.
Dans un logement où il y a effectivement peu de surface, il suffit qu'il y en ait un qui soit porteur pour que forcément, la promiscuité fait que si on ne met pas plus en place les mesures barrières, même au sein de notre domicile, effectivement, la transmission se fait plus facilement.
L'enjeu désormais, c'est de faire reculer l'épidémie tant bien que mal. Pour cela, la mairie de Roubaix va nommer dès cette semaine des ambassadeurs pour tenter de faire passer les bonnes conduites sanitaires dans toute la ville.
Antoine Decarne à Roubaix pour RTL. Manneleux, pain d'épices et autres vins chauds. Les fêtes de fin d'année vont perdre de leur saveur à Strasbourg cette année. En effet, le célèbre marché de Noël est annulé à cause de la crise sanitaire. Pas de chalet donc. En revanche, la mairie a tenu quand même à maintenir des animations, Yannick Collin.
Oui, Jeanne Barseguian, la maire de Strasbourg l'a annoncé ce matin. Maintenir un marché de Noël avec 300 chalets, ce n'est plus possible avec l'aggravation de l'épidémie.
Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, je privilégie aujourd'hui en toute responsabilité ce deuxième scénario sans chalet pour cette édition 2020 très particulière de notre marché de Noël.
La maire qui évite de dire le mot annulation, mais les commerçants du marché de Noël ont parfaitement compris et plusieurs d'entre eux se sont précipités à la mairie pour lui dire toute leur colère.
Ce n'est plus un marché de Noël. Sans les chalets, sans les chalets, que ce soit à la cathédrale, que ce soit à la place Broglie, ce n'est plus un marché de Noël si on n'est pas là.
Qu'on soit clair, l'année 2020, c'est une année exceptionnelle.
On a déjà investi à partir de cet été. On a commencé beaucoup d'investissements. Il y a tous les décorateurs, ceux qui font les boules, tout ça, qui ont déjà passé leur commande depuis le mois de janvier, qui ont sorti énormément d'argent. Là maintenant, tout le monde est au pain sec. Justement, vous êtes en train de nous tuer.
Et les forains ont prévenu, ils sont prêts à bloquer la ville de Strasbourg avec leur camion tout le mois de décembre s'il le faut.
Le reportage de Yannick Collin pour RTL. Et de l'autre côté du Rhin, l'Allemagne connaît également un regain de l'épidémie. Les autorités sanitaires s'inquiètent, elles parlent de situation très grave, ce sont ces mots. La Belgique, elle, n'a rien décidé officiellement, mais pourrait, selon certains représentants politiques, se reconfiner dès la semaine prochaine. Sachez que Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères, qui a également été à la tête du gouvernement, a été admise hier soir en soins intensifs. Âgée de 45 ans, elle a été testée positive au Covid samedi dernier. Selon nos confrères de la Libre Belgique, son état est stable. Parmi les personnes mises en examen après le meurtre de Samuel Paty, il y a deux jeunes âgés de 14 et 15 ans. Dans un instant, nous recevrons l'avocat de l'un d'entre eux.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Nous vous en avons parlé depuis ce matin sur RTL. Parmi les 7 personnes inculpées la nuit dernière pour l'assassinat de Samuel Paty, il y a 2 mineurs, 2 collégiens de 14 et 15 ans. Ils ont reconnu avoir désigné le professeur contre de l'argent proposé par le terroriste. Et pour cela, ils sont poursuivis pour complicité. Contrairement aux adultes placés en détention, eux sont ressortis libres, sous contrôle judiciaire. Nous sommes avec l'avocat de l'un d'entre eux, Maître Jackie Attias. Bonjour à vous.
Oui, bonjour madame, bonjour maître.
Sans trahir le secret de l'instruction, maître, pouvez-vous nous en dire plus sur le profil de votre client ?
Alors, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée auprès de la famille de la victime et aux proches de la victime et à la grande famille de l'éducation nationale. Ça, c'est mon premier point. La situation, dans quelle situation se trouve ce jeune homme et cette famille, vous imaginez très bien. Aucune comparaison avec ce que peuvent subir les proches de la victime, mais c'est une famille effondrée. Une famille effondrée du jour au lendemain, a vu ce drame s'abattre et est extrêmement consternée, complètement perdue, complètement désemparée.
Est-ce que votre client avait eu affaire à la justice auparavant ?
Jamais, jamais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a eu un juge des libertés et de la détention qui a fait un excellent travail, qui a fait la part des choses et qui a appliqué comme on le souhaite et comme c'est souvent le cas, le droit, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas connue des services de police, qui n'est pas connue des services judiciaires, qui n'a jamais fait parler d'elle et qui offre, comme cela doit se présenter à chaque fois, des garanties de représentation et surtout faire l'objet d'un suivi psychologique, car il en aura besoin.
Est-ce qu'il réalise ce dont on accuse votre client ?
Pas encore. Très difficile pour lui parce que c'est un jeune homme qui a cédé à quoi ? Ben qui a cédé et qui a été manipulé. La tentation de quoi ? La tentation de l'argent. Est-ce que la vie d'un homme vaut 350 euros, c'est extrêmement dramatique. C'est extrêmement dramatique. Et je le dis pour que l'on l'entende clairement. En tous les cas, la défense ne cherchera aucune excuse. Elle essaiera simplement de comprendre comment des jeunes ont pu se laisser manipuler et céder à la tentation. 350 euros, la vie d'un homme, non, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Maintenant, expliquer pourquoi, comment, qui a fait quoi, etc. Chose certaine dans ce dossier, c'est à aucun moment l'auteur des faits, de ces faits encore une fois atroces, n'a dit ou laissé entendre à ce jeune homme ou à d'autres jeunes hommes qu'il allait assassiner cet enseignant. Ça c'est une chose qui est acquise, me semble-t-il, et je sans trahir aucun secret en tous les cas. On savait que cette personne souhaitait filmer, souhaitait diffuser via un certain nombre de réseaux sociaux des excuses, encore une fois, mais jamais il a été porté à la connaissance de mon client que ce dernier allait passer à l'acte.
Alors sans le tuer, sans le décapiter, est-ce que le terroriste a fait quand même part de sa volonté de frapper l'enseignant ?
Volonté d'avoir des excuses, volonté d'avoir encore une fois une personne qui regrette les propos qu'il aurait pu tenir. Oui, encore une fois, ça c'était la première démarche en tous les cas. Ce sont les échos qu'a eu mon jeune client pour répondre encore une fois à l'auteur des faits, répondre de cet acte-là. Non, jamais en aucun cas. Il l'a eu ni de près ni de loin l'intention. Qu'avait cet auteur des faits.
On rappelle quand même que votre client a 14 ans.
14 ans, c'est particulièrement jeune. Vous imaginez encore une fois la situation dans laquelle ce jeune homme se trouve, sa famille et des faits d'une telle gravité. Je crois que c'est la première fois en France que nous avons deux jeunes mis en examen pour des faits de terrorisme, 14 ans. Alors ça interpelle beaucoup parce que ça interpelle nos politiques pour savoir un petit peu pourquoi on en arrive là, pourquoi ces jeunes cèdent à cette tentation, pourquoi des jeunes n'arrive pas à se contrôler, voilà, des difficultés, des interrogations encore une fois. On essaiera d'y répondre, la justice essaiera en toute sérénité d'y répondre, elle doit passer cette justice, elle passera, elle punira les coupables encore une fois, ça on en est conscience encore une fois, et je le dis et je le répète haut et fort, aucune excuse ne sera avancée sur le comportement qu'aurait pu avoir ce jeune homme, mais en tous les cas, la difficulté qu'on aura, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette tentation, qu'est-ce qu'a pu dire personnes pour essayer de convaincre d'accepter 350 euros. Je vous dirais, c'est quoi, 350 euros en coupure de 10 euros. Mon client était aveuglé. On peut le dire comme ça, il était aveuglé. Il a vu cette liasse de billets, puis il s'est dit, ben voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais peut-être m'acheter une PlayStation, je vais peut-être faire certaines choses. Qu'est-ce qu'il en a fait? Je vous avouerai franchement qu'il a distribué à droite, à gauche, gardé peu de choses pour lui. Et encore une fois, situation extrêmement, extrêmement pénible. Placement sous contrôle judiciaire.
Alors justement, dernière petite question, maître, concernant le contrôle judiciaire, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il reste chez ses parents ou il est obligé de sortir du département?
Alors, vous imaginez bien que le département lui est interdit. Il a certaines obligations, notamment celle de ne pas résider dans le département, celle également de ne pas approcher ni de près ni de loin l'ensemble des personnes mises en cause dans ce dossier. Et vous comprendrez encore une fois qu'on a souhaité, bien entendu, dans le cadre de son contrôle judiciaire, l'éloigner le plus loin possible du lieu de la commission des faits, de ce collège, encore une fois. Voilà les principales mesures prises dans le cadre de son contrôle judiciaire. Il a compris, et puis bien entendu, vous imaginez qu'au-delà de ce contrôle judiciaire, il va y avoir du travail, un travail psychologique à faire pour essayer de reconstruire beaucoup de choses. Et encore une fois, vous avez vu mon propos, cette pensée pour cette victime, et je terminerai avec ça, parce que s'il y a encore une fois, pour moi, trois familles qui ont été détruites, celle de la victime en premier, bien entendu, la famille de l'éducation nationale et la famille de ce jeune homme.
Merci beaucoup, maître Jackie Attias, d'avoir été l'invité de RTL. Je rappelle que vous représentez l'un de ces deux mineurs mis en examen et placé sous contrôle judiciaire après l'assassinat de Samuel Paty. Près de 8 Français sur 10 trouvent justifié que les professeurs utilisent des caricatures se moquant des religions, surtout dans un cours sur la liberté d'expression. Résultat d'un sondage IFOP pour CNews qui met également en exergue l'inquiétude des sondés. 87% des personnes interrogées estiment que la laïcité est en danger. On passe au chapitre économique. Les banques, sachez-le, remboursent de moins en moins leurs clients en cas de fraude. L'association UFC Que Choisir a réalisé une enquête sur le sujet. Et c'est très clair, près de 30% des victimes sur les 12 derniers mois n'ont pas pu faire fonctionner leur assurance. Les vols, les arnaques, l'usurpation, ces délits sont en hausse, Christophe Ponzio. Et pourtant, paradoxe, le consommateur n'a jamais été aussi bien protégé.
C'est effectivement tout le paradoxe. Depuis l'an dernier, s'authentifier pour un paiement en ligne grâce à un code à usage unique reçu par SMS, vous savez, bien tout cela, ça ne suffit plus. La banque doit mettre en place des dispositifs plus robustes. Une double authentification, reconnaissance digitale, un mot de passe par exemple. Sans cela, le remboursement en cas de fraude doit être immédiat le jour suivant votre déclaration. Mais la réalité est tout autre, déplore Mathieu Robin en charge des questions financières à l'UFC Que Choisir.
Le constat est vraiment accablant dans la mesure où près d'un consommateur sur trois n'est pas remboursé en raison d'accusations de négligence de son établissement bancaire. Cette accusation, elle ne tient pas, puisqu'en fait, la banque, quand elle ne propose pas un dispositif d'authentification forte, donc une sécurisation totale des paiements du consommateur, eh bien, elle ne peut pas se réfugier ou rechercher la négligence du client pour ne pas la rembourser. Et c'est malheureusement ce qui se passe bien trop fréquemment sur le terrain.
Alors les banques réfutent tout retard, même si moins d'un consommateur sur deux serait équipé de cette technologie. Les victimes doivent aussi multiplier les dépôts de plaintes, fournir des relevés de comptes, des démarches qui découragent, continue l'association.
Et c'est tout à fait inacceptable parce que ce n'est pas prévu par la loi. Les fraudes, eh bien c'est 400 euros en moyenne par client, par consommateur, et ça a une incidence grave sur leur budget.
Avec le confinement, l'UFC Que Choisir s'attend à une hausse de 20% des fraudes bancaires cette année, soit 600 millions d'euros.
Les précisions de Christophe Ponzio pour RTL. Merci Christophe. Nous parlions de la situation de Gap hier. D'autres groupes dans le secteur de l'habillement sont fragilisés par la crise actuelle. Menacés même, le distributeur Kidiliz, qui regroupe des marques comme Catimini, Shippy, redoute de très nombreux licenciements économiques dans les prochains mois. En France, 1500 salariés pourraient perdre leur emploi. Il est 12h52 précisément sur RTL. Dans un instant, on retrouve Pascal Praud.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans quelques minutes au 32-10. Pascal, nous étions avec l'avocat de l'un des deux mineurs mis en examen dans l'assassinat de Samuel Paty. On rappelle que ces mineurs ont 14 ans, ces deux collégiens. Vous allez en parler.
Évidemment, et ce qui est tout à fait extraordinaire au sens vraiment premier, c'est que jamais des mineurs n'ont été mis en examen, quoi, des mineurs, jamais des aussi jeunes enfants n'ont été mis en examen pour des faits de terrorisme. 14 et 15 ans. Donc après, chacun aura en conscience ce qu'il fallait l'incarcérer ou pas. Chacun répondra en conscience à cette question. En tout cas, vous pourrez bien sûr réagir sur ce sujet, comme vous pourrez réagir sur l'émotion hier qui était importante après la cérémonie vibrante de la Sorbonne. Les mots d'Emmanuel Macron également, vous pourrez réagir. Autre sujet du jour, c'est le pape François qui défend le droit à l'union civile pour les couples homosexuels. Et ça, disons-le, c'est révolutionnaire. Jean Castex qui remonte en première ligne pour annoncer tout à l'heure le basculement de plusieurs départements en alerte maximale. Et puis, si on veut égayer un peu cette morne actualité, eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Catherine Deneuve. Quel est votre film préféré de Catherine Deneuve? Je ne sais pas, Agnès. Si
Podane, vous avez... c'est pas mal quand même.
Podane, non, c'est pas mal. C'est votre enfance qui parle.
Mais, je vous en prie, j'étais pas née.
Non, mais vous l'avez vu enfant.
Oui,
vous,
oui.
J'imagine,
oui, oui, Pascal,
vous l'avez
oui, oui,
vu enfant. C'est un film effectivement qui doit être de 71, je pense, Podane.
On connaît tous la recette du cake d'amour, mais oui.
Bien sûr. Mais pourquoi pas Les Demoiselles de Rochefort, et puis pourquoi pas Le Dernier Métro, et puis pourquoi pas Hôtel des Amériques, et puis pourquoi pas
Indochine,
Huit femmes. Et effectivement, c'est une comédienne à part,
bien
disons-le,
sûr,
dans le cinéma français. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire.
La météo, Peggy Broche, de la pluie mais aussi de la douceur, ça contrebalance un peu.
Eh oui, c'est vrai qu'on perd malgré tout 1 ou 2 degrés, mais on est toujours au-dessus des normales, 4 à 6 degrés au-dessus des valeurs de saison. Ça donne quoi? 17 à Brest cet après-midi ainsi qu'au Havre, 20 degrés à Paris, Metz, Lyon, La Rochelle, 22 à Toulouse et Perpignan, 23 degrés à Marseille et jusqu'à 24 à Ajaccio. Alors côté ciel, vous l'avez dit, c'est bien gris, c'est humide, on a des pluies régulières cet après-midi du Massif central au nord-est, sur les Alpes également, sur le relief des Pyrénées et des pluies plus soutenues encore sur le relief des Cévennes. Et puis ça souffle encore, hein, notamment dans le sud. C'est plus sec avec un ciel bien voilé vers le midi toulousain, vers la Côte d'Azur, plus lumineux à l'ouest de la Corse et ailleurs. C'est vrai que de l'Aquitaine aux Ardennes, en passant par les Charentes, le centre et l'île de France, c'est un temps instable avec nuages, éclaircies, averses, également un coup de tonnerre possible. Et puis finalement, c'est sur la Bretagne et près de la Manche que le temps sera plus agréable avec une petite averse possible sur la côte normande.
Et demain, il ne sera pas simple non plus de trouver le soleil.
Non, c'est vrai qu'il sera rare ce soleil. Beaucoup de nuages encore et puis un axe pluvieux et orageux sur une grande partie sud et est du pays. Alors sur le flanc est, c'est là que les pluies seront les plus soutenues, notamment vers la vallée du Rhône et les Alpes. Les orages vont se généraliser au fil des heures du sud-ouest au nord-est avec de fréquentes averses, quelques trouées possibles. Et puis sur le nord-ouest, là le ciel sera chargé mais généralement sec le matin et on retrouvera des éclaircies au fil des heures. Côté température, eh ben on perdra encore 1 ou 2 degrés, mais malgré tout ça restera doux pour la saison de 15 à 23 demain.
Merci beaucoup Peggy Bro.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et nous allons revenir sur le match poignant hier à la Sorbonne. Nous sommes déjà avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
Pascal.
Vous étiez émue hier soir comme nous tous.
Oui, très très. On en parle après les titres.
Exactement. Agnès Bonfillon pour le rappel des titres.
Jean Castex prendra la parole cet après-midi à 17h. Une chose est sûre, le Premier ministre va annoncer un nouveau tour de vis concernant les mesures pour contrer l'épidémie de coronavirus. Désormais, d'autres départements vont passer en alerte maximale avec un couvre-feu à la clé. Parmi les 7 personnes inculpées la nuit dernière pour l'assassinat de Samuel Paty, il y a 2 mineurs, 2 collégiens de 14 et 15 ans. Ils ont reconnu avoir désigné le professeur contre de l'argent proposé par le terroriste. Pour cela, ils sont poursuivis pour complicité. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Et puis, on l'apprend à l'instant, au Liban, Saad Hariri a de nouveau été désigné Premier ministre du pays pour former un gouvernement. Il avait démissionné il y a quasiment jour pour jour, sous la pression d'un soulèvement populaire.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs...